sait pas parce qu'on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. C'est, on comprend très bien les enjeux, c'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Les massacres que les soldats onisiens ont commis contre les peuples haïtiens, surtout les peuples des bidonvilles.
Sécurité. Ce qui arrive, c'est que ça permet au gouvernement canadien de détenir quelqu'un sans charge, sans accès à la preuve.
Les questions de base qui définissent ce conflit. Ce conflit, c'est avant tout un conflit sur la terre.
Nous acquis sur la question de l'avortement. Alors, c'est pour ça que je suis ici avec ma fille, la belle fille, qui est la relève. On continue.
Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de parte de los zapatistas.
En bas à gauche, sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM. Aujourd'hui, au programme, une entrevue enjeu et mobilisation sur la question des 12 jours contre la violence faite aux femmes, mais aussi une chronique culturelle pour vous donner envie d'aller au théâtre. Une entrevue avec Alain Deneau, auteur de Noir Canada. Il y a une mobilisation qui s'en vient demain devant le Palais de Justice, mais aussi l'anti-hebdo pour savoir quoi faire de votre semaine d'hiver. Restez avec nous.
Alors, comme l'annonçait Blandine plus tôt, nous avons choisi pour la chronique Enjeux et mobilisation aujourd'hui de faire le bilan de la campagne des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes. Donc, c'est une campagne qui était coordonnée par la FFQ et à laquelle participaient plusieurs groupes de femmes du Québec et qui s'est clôturée hier par le Grand Rassemblement. Alors, il faut dire que cette campagne-là, au niveau du Québec, s'encadre dans une campagne internationale qui a été mise sur pied en 1991 par le Centre pour le leadership global des femmes. Alors, au niveau international, l'idée de la campagne, c'est de lier symboliquement la date du 25 novembre, journée de la violence contre la violence de genre, à la date du 10 décembre, qui est la Journée internationale des droits humains. Alors, l'idée, c'est un peu de montrer que la violence contre les femmes, c'est une violence contre, une violation des droits humains, pardon. Au Québec, le comité organisateur a plutôt décidé de lier la journée du 25 novembre à la journée très symbolique du 6 décembre. Et justement, c'est à la mémoire des 14 jeunes femmes victimes du crime misogyne commis à la Polytechnique le 6 décembre 89 que le comité organisateur de la campagne a mis de l'avant 14 façons de lutter contre la violence envers les femmes. Alors, pour en parler aujourd'hui avec nous, Martine Éloi, porte-parole du comité organisateur de la campagne pour le thème de la militarisation. Martine, bonjour, bon matin.
Bonjour, bon matin.
Merci. Alors, Martine, merci d'être avec nous, pas en studio, mais à la maison au chaud, pour nous tracer le bilan de la campagne des 12 jours, des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes. Alors, Martine, premièrement, pouvez-vous nous tracer un bilan de ces 12 jours d'action? Qui participait? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'activités et où ont-elles lieu?
Mais en fait, c'est peut-être un petit peu tôt pour tracer un bilan juste au lendemain des 12 jours. Il faut savoir, comme vous le disiez plus tôt, que le comité organisateur est composé de un bon nombre des principaux regroupements de groupes de femmes qui travaillent spécifiquement sur la question de la violence. Et ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est d'abord de faire circuler une espèce de prise de position contre la violence et les 14 façons de lutter contre, qu'on a fait signer, endosser et payer par un bon nombre de personnes et 184 organismes. Et cette prise de position a été publiée dans certains des grands quotidiens avec les signataires. Donc, c'était un premier geste de sensibilisation au fait que la violence est encore très présente et qu'elle prend, entre autres, la forme de deux phénomènes qui la perpétuent, c'est-à-dire la marchandisation du corps des femmes et la militarisation. Et dans la suite de cette prise de position, on avait pensé à 14 façons de lutter contre la violence envers les femmes, 14 façons en hommage aux 14 victimes, évidemment, et on avait fait des autocollants qu'on a fait circuler. Alors, comme c'est des grands regroupements, chaque regroupement a envoyé les autocollants dans ces groupes qui sont à travers toute le territoire du Québec. Et c'est localement que les gens s'en sont servis, soit pour faire de l'affichage d'autocollants, par exemple, sur des cibles de violence envers les femmes, ou encore pour les porter, l'arborer sur leurs vêtements. Et donc, c'est dans quelques temps qu'on va être capable de faire un bilan plus précis du retentissement que ça a eu, mais il y a sûrement eu des actions dans toutes les régions du Québec pour faire connaître la violence et pour aussi faire connaître notre volonté d'y mettre fin.
Et comme vous dites, la campagne est donc loin d'être terminée puisque ces 14 façons de lutter contre la violence envers les femmes vont continuer à circuler dans tout le Québec. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces 14 façons qui ont été mises de l'avant?
Oui, bien sûr. Par exemple, il y en a qui sont plus générales, comme dénonçons la banalisation de la violence, intervenons si nous entendons des paroles violentes ou sexistes, intervenons lorsqu'une femme se fait harceler ou violenter. Mais certaines qui dénoncent plus la marchandisation du corps des femmes, comme dénonçons les publicités sexistes, dénonçons l'idéal de beauté qui nous est imposé, refusons de consommer de la pornographie, et d'autres qui sont plus spécifiquement reliées à la militarisation, comme dénonçons le viol utilisé comme arme de guerre, refusons que les droits des femmes servent de prétexte à la guerre, refusons d'acheter des jeux et des jouets de guerre, dénonçons le recrutement militaire dans les établissements d'enseignement. Et évidemment, celui qui englobe tout, brisons le silence et dénonçons l'intolérable car la violence tue.
Donc ça, c'était les 14 moyens que la FFQ et les autres groupes de femmes ont mis de l'avant?
Oui, j'en ai sauté quelques-unes, là, mais je vous donnais une idée du type de moyens qui étaient mis de l'avant, c'est-à-dire que, par exemple, si chacun d'entre nous refusait d'acheter des jouets de guerre ou dénonçait la traite des femmes et des enfants ou arrêtait de consommer de la pornographie, c'est tous des gestes qui... En s'attaquant aux deux phénomènes, la marchandisation du corps des femmes et la militarisation, qui servent en fait à perpétuer, entre autres, la violence envers les femmes, on pense que ça aurait un effet de prévention.
Et donc, vous dites qu'il y a deux sujets prioritaires à la campagne au Québec, la marchandisation du corps des femmes, et le second, c'est le thème de la militarisation, pour lequel vous êtes porte-parole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi l'enjeu de la militarisation est lié au mouvement des femmes? Pourquoi ça devrait être une revendication des femmes?
Mais en fait, au niveau international, comme vous avez dit, ça a été retenu en 2010 comme étant le thème pour les 16 jours d'action contre la violence envers les femmes. Et ce qui les femmes au niveau international étaient arrivées à la conclusion que, après de nombreuses consultations auprès d'organisations et des experts du monde entier, le militarisme émerge comme l'une des principales structures qui perpétue la violence. Alors, quand on y regarde de plus près, on voit que le militarisme comporte beaucoup des structures et des valeurs au niveau de la hiérarchisation, au niveau du pouvoir. On sait, par exemple, que la violence, contrairement à ce qu'on pense des fois de manière plus commune, c'est pas juste un conflit. Il peut y avoir un conflit entre deux personnes et il n'y a pas nécessairement de violence. Mais la violence, c'est quand une personne cherche à exercer son pouvoir sur une autre. Donc, il y a la notion de pouvoir, de domination dans le phénomène de la violence. Et évidemment, dans une guerre, il y a toujours la notion de pouvoir et de domination. Donc, c'est inhérent au militarisme, le concept de hiérarchie, de domination, de pouvoir et donc de violence.
Donc, la revendication antimilitariste s'attaque à l'utilisation du pouvoir de la hiérarchie au sein de l'institution militaire, mais vous avez également mentionné une des façons d'éliminer la violence contre les femmes, c'était de s'opposer au viol en tant qu'arme de guerre.
Oui.
Alors, pouvez-vous nous toucher un mot sur l'analyse féministe qui se réfère au corps des femmes en tant que champ de bataille lors des conflits armés?
Oui, bien, ça fait des siècles, des lunes que le viol est utilisé comme arme de guerre. C'est vraiment une expression de la domination des hommes sur les femmes, d'utiliser le corps des femmes pour humilier, par exemple, la personne, l'homme contre qui on se bat, de violer sa femme. C'est une expression du pouvoir de l'envahisseur ou de l'agresseur sur le peuple agressé. Alors,
parce que la femme est vue comme la propriété de
cet homme. Vraiment quelque chose d'ahurissant. On a entendu parler en quelques semaines de centaines de cas de viol au Congo dernièrement. Et les conditions, le viol est utilisé vraiment pour soumettre, pour humilier et pour affirmer son pouvoir.
Et en plus du viol, comme vous l'expliquez, comme arme de guerre, on voit que les femmes font aussi l'enjeu de conflits, ou en fait dans l'argumentaire des vainquants ou des dominants. C'est le cas en Afghanistan. Un des arguments qu'on a souvent entendu de la part de nos politiciens pour justifier l'occupation militaire du Canada en Afghanistan, c'est de dire que le Canada est là pour défendre le droit des femmes. Donc, le corps des femmes n'est pas un champ de bataille dans ce cas-là, mais plutôt un trophée. On essaie de le libérer. Mais pourtant, la FFQ, avec toute sa campagne contre le recrutement, contre la guerre en Afghanistan, a une position contraire. Qu'est-ce que vous répondez au gouvernement canadien quand il dit ça?
Il faut absolument dénoncer l'utilisation qui est faite des droits des femmes pour justifier la guerre. D'une part, quand on voit qui le met de l'avant, que ce soit Bush ou le premier ministre Harper, on sait par leur action ici dans leur pays que ces deux personnes-là n'ont absolument pas à cœur le droit des femmes. Ils ont coupé allègrement dans tous les groupes de femmes qui défendaient les droits des femmes au Canada, dans le cas de Harper. Donc, on peut mettre en doute leurs préoccupations avec les droits des femmes. De toute façon, comment est-ce qu'on peut envisager que mener une guerre qui va décimer des familles, qui va tuer des enfants, qui va tuer des hommes, qui va faire en sorte que des milliers de femmes vont devenir réfugiées, veuves. Il y a plus d'1,5 million de veuves maintenant en Afghanistan. Comment est-ce et que toutes les tâches de la vie quotidienne, comme obtenir de la nourriture, obtenir de l'eau, vont être rendues deux fois plus difficiles parce que les conduits d'eau vont être brisés, parce que l'alimentation en denrées de base vont être rendues difficiles. C'est les femmes qui ont les soins, souvent des personnes blessées et dans les familles. Donc, comment est-ce qu'on peut envisager que mener une guerre peut améliorer la condition des femmes, alors qu'on sait que quand il y a une guerre, c'est la survie qui devient la préoccupation et non pas l'éducation et tous les droits plus démocratiques ou plus dont on s'occupe une fois qu'on a réussi à répondre aux besoins de base, comme de boire et de manger. Donc, c'est vraiment assez grotesque de penser qu'on peut qu'on mène une guerre pour le droit des femmes. Et puis, dans le code des droits, comme dans le code de la démocratie, moi, je dis toujours, c'est pas ça ne voyage pas dans les chars d'assaut. C'est pas avec des chars d'assaut qu'on peut développer un État démocratique.
Et puis, si ça paraît assez évident que les femmes sont victimes des conflits armés, donc sur le terrain des guerres, en quoi le militarisme ou les va-t-en-guerre ont une influence sur la vie des femmes au Québec?
Oui, ça c'est intéressant. Plusieurs études ont montré aux États-Unis, entre autres, dans des communautés où après le retour des soldats, qu'il y avait une hausse de la violence conjugale. Et puis récemment, on a vu ça d'ailleurs hier et avant-hier, là, une émission à la télévision, qu'un rapport de sources militaires elles-mêmes montrait du doigt le fait qu'il y avait deux fois plus de violence conjugale dans les familles de militaires après le retour des soldats que dans la population en général. Et on a eu d'ailleurs des rapports à cet effet-là de groupes qui travaillent dans la région de Valcartier. C'est sûr que certains des soldats qui reviennent sont en choc post-traumatique, mais il semble qu'il y ait ce qu'on appelle un certain transfert du droit que les soldats s'octroient sur le champ de bataille, du droit qui s'octroie sur les corps des femmes en temps de guerre, et ils transfèrent ce droit-là dans leur communauté quand ils reviennent. On sait que la guerre est éminemment violente. Comme je disais tout à l'heure, qu'on y exerce des rapports de pouvoir hiérarchiques et de domination. Et donc, il est, j'imagine, assez facile de comprendre que de retour au pays, on y est comme une espèce de transfert de cette idéologie-là dans les familles des militaires elle-même.
Et puis Martine, pour la minute qui nous reste, en fait, pouvez-vous nous toucher un mot par rapport aux actions que fait la FFQ contre le recrutement dans l'armée, pour l'armée canadienne?
Ben, en fait, la FFQ a mis cette revendication-là de l'avant dans le cadre de la Marche mondiale des femmes on n'a reçu aucune réponse du gouvernement fédéral sur cette revendication, c'est-à-dire du gouvernement provincial, parce que le recrutement est de... on continue à mettre de l'avant cette revendication, mais l'action est surtout organisée par la Coalition contre le recrutement dans les établissements scolaires, qui est une coalition d'étudiants et d'enseignants qui interviennent contre le recrutement dans leurs établissements.
Et pour terminer, si on veut en savoir plus sur la campagne, si on veut avoir accès aux autocollants et au matériel qui a été produit, est-ce qu'on peut visiter le site de la FFQ?
Oui, effectivement, tout est disponible sur le site, les autocollants et les différents documents qui ont été produits, y compris des fiches d'information sur la militarisation et la marchandisation du corps des femmes.
Donc, on va lire ça avec intérêt. Puis, je vous remercie beaucoup, Martine Éloi. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Je
souhaite moi qui vous remercie.
Première journée de tempête de neige. Au revoir, merci.
Au revoir.
Oh voilà, ça c'est une reprise de mon livre qu'on n'a pas volé mais qu'on reprend quand même parce que ça nous fait plaisir. Faut varier les plaisirs.
bas à gauche. Chronique culturelle.
Vous écoutez En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, et nous écoutions une chanson de La Rue qui est à nous. C'était La misère d'en face. Alors, c'est le temps de la chronique culturelle. Quelques minutes pour vous donner envie d'aller voir Amuleto en ce moment à l'affiche au théâtre de Katsu, leur site web www.katsu.com. Amuleto, c'est une libre adaptation d'un roman du même nom qui est du poète et romancier Roberto Bolaño, que je vous invite à découvrir. C'est Catherine Vidal, une fille d'immigrants chiliens, qui explore la dramaturgie de l'un des plus grands auteurs contemporains du sud de l'Amérique. Donc un livre qui fait un portrait social et artistique inspiré de voyages au Mexique et au Chili. Alors l'histoire se promène entre 68 et les années et tout le reste des années 70 par des rêves et des moments de projection dans le futur. Alors en 68, on commence avec Auxilio, une femme marginale et bohème qui se trouve prise au piège lors d'une violente répression d'une manifestation étudiante à l'UNAM. Cette captivité la conduira à se réfugier dans ses souvenirs, tout en plongeant dans la mémoire collective des peuples sud-américains qui ont subi les révolutions au cours des années 70 et leur répression. Alors on va être coincé avec Amuleto on va être coincé avec elle en fait dans cette toilette du deuxième étage du pavillon de philosophie et sciences humaines de l'UNAM, l'Université nationale autonome de Mexico, et on va se promener avec elle aux côtés des poètes parfois pleins d'espoir, des poètes parfois pleins de désespoir. On va vivre l'arrivée d'Allende au Chili à distance. On va aussi vivre le coup d'État. Alors on va faire une revue historique de ces 5-6 années de l'Amérique latine à travers de la poésie, des flashs, et c'est vraiment il y a un côté très didactique, c'est-à-dire qu'on va commencer la pièce avec une façon de nous situer. C'est-à-dire pour quelqu'un qui connaît pas l'histoire de l'Amérique latine, ça va être un lieu d'apprentissage intéressant et amusant. Ça va aussi être un moment d'émotion pour les personnes qui connaissent plus la situation et donc pour qui chaque référence va résonner un peu plus fort. Peut-être une petite critique, il y a beaucoup de textes. Comme c'était un roman, c'est devenu une pièce de théâtre, alors c'est beaucoup de textes et c'est un petit peu illustratif à l'occasion, mais ça vaut vraiment la peine. Puis si vous voulez voir des extraits, vous pouvez en voir des extraits sur le site du théâtre de Katsu. Les pièces de théâtre sont rendues super bien marketées sur YouTube, et donc pour voir un petit peu l'ambiance dont je vous parle, qui est tout à fait sympathique. Alors voilà, c'est un appel pour aller voir Amuleto, qui est à l'affiche jusqu'au 16 décembre. Alors dépêchez-vous, il vous reste à peine 2 semaines, mais c'est vraiment un beau cadeau à se faire. Et on vous laisse avec un peu de musique d'Amuleto et la publicité sur les ondes de Radio Centre-Ville.
Teresa, cuando te pones esa rosa.
Acheter en français, c'est bien sûr contribuer au développement de notre économie, mais c'est aussi se respecter et se faire respecter. Les emplettes de Noël, c'est en français que ça se passe. Impératif français vous souhaite une heureuse francisation et un joyeux Noël, tout en français.
L'actualité socio-culturelle et politique vous intéresse?
Alors prenez rendez-vous avec l'émission Montréal sans accent le mardi de 16h à 17h30 sur 102,3 FM Radio Centre-Ville.
Un beau choix musical fait aussi partie de cette émission.
Arc's Notebook, avec Stan Asher et copilote Davin Ryle. Votre départ vous attend chaque samedi matin à destination de la scène locale de théâtre anglais, avec escale au film, au festival culturel, le calendrier des activités culturelles et également les critiques de ce qui se joue sur les scènes locales. Tout le monde à bord, les samedis de 11h30 à 12h30 avec Arc's Notebook.
Ici Michel Mambara, porte-parole de la semaine Ubuntu 2010. Dans ma langue maternelle rwandaise, Ubuntu signifie humanité. C'est aussi le nom d'un projet lancé au Rwanda par une Québécoise afin de soutenir les victimes du génocide. Venez nous rencontrer pour deux événements bénéfices, lundi 6 décembre 18h, au restaurant Robin des Bois pour le 6 à 8 d'Ubuntu. Et la fin de semaine 10, 11, 12 décembre, au Relais Mont-Royal pour l'expo-vente de Noël de la coopérative Intermonde. Tous les détails au www.intermonde.ca. Elle vient de voir là, tu vas voir du fond noir, tu sais, veux dire là.
En matière de musique du monde, Radio Centreville vous fait voyager aux quatre coins du monde. Radio Centreville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Tu mises sur toi-même et tu perds contre toi-même. Et tu mens aux autres comme tu mens à toi-même. Tu perds toute ta famille, tu gâches même tes enfants. S'en vaut-tu la peine pour une question d'argent? C'est pas aussi simple qu'une game de bingo. Ça finit les casinos. Tu mises tout, tu mises trop. Une cause de suicide comme d'autres problèmes d'ailleurs. Ils misent tout ce qu'ils ont, prêt à vendre leur honneur. L'argent fait-il le bonheur? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent de bonne heure. Et ceux qui foncent pour un monde meilleur. Les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Concept de société, concept de business, conseil de chum, longe ta mise, fuck la somme. Avec la vie que tu mènes, t'as la confiance de personne. Et c'est dégueulasse, perdre la face pour un signe de pièce. Ta vie serait sur ma pile ou face. Qui voit des dinigres, junior, qui chie, pas qui n'a rien. Qui voit, oui, j'y mets des journées. Qui ga, qui n'a, oui, j'y ma ka, oui, a gouk, ta piche, coach, qui n'a, giga, qui n'a, oui, j'y n'a. Qui voit des dinigres, junior, qui chie, pas qui n'a rien. Qui voit, oui, j'y mets des journées. Qui ga, qui n'a. Propose du rêve aux communautés pauvres. C'est là que je m'impose et que les questions se posent. Quoi faire, qui blâmer, les hauts placés? Ou juste la société qui mise l'argent mal placé? C'est pathétique, rendu pathologique. Pas très logique de croire que la problématique est juste pour un soir. Y'a de l'espoir, faut croire, y'en a qui s'en sortent. Puis avoue que j'ai pas tort. Le jeu se résume à un château de cartes. Le 2 de pique fait surface et le roi perd sa place. T'es le valet de ton reflet. Les jeux sont faits et c'est juste un fait. Essaye de comprendre pourquoi t'es pris dedans. C'est un conjoint des enfants. Comprendre pour eux c'est stressant, même blessant. Jouer en compulsif peut détruire une famille. La confiance de ses proches pour vider le fond de sa poche. Moi je trouve ça poche, mais j'ai pas de préjugés, encore moins de reproches. À toi de trouver ce qui cloche. Y'a de l'aide qu'on t'offre. Et t'es pas le seul ni le premier à vivre cette catastrophe. Qui voit des dinigres, junior, qui chie, pas qui n'a rien. Qui voit, oui, j'y mets des journées. Qui ga, qui n'a, oui, j'y ma ka, oui, a gouk, ta piche, coach, qui ga, qui n'a, oui, j'y n'a. Qui voit des dinigres, junior, qui chie, pas qui n'a rien. Qui voit, oui, j'y mets des journées. Qui ga, qui n'a, oui, j'y ma ka, oui, a gouk, ta piche, coach, qui ga, qui n'a, oui, j'y n'a. C'est impensable de prendre le jeu au sérieux. Quand c'est plus un loisir, c'est que le jeu te rend nerveux. Plus t'en as, plus t'en veux, mais t'es perdant. Les deux pieds en plein dedans. Quand tu gagnes l'argent, c'est que t'as perdu le double. Rien de plus qu'une illusion.
Vous écoutiez Samienne, la chanson Gambling sur les ondes de Radio Centreville 102.3 FM. C'est en bas à gauche. C'est maintenant l'heure de l'anti-hebdo, un petit peu d'avance, puisque notre invité Alain Deneau doit être pris dans la neige quelque part, comme tout le monde et comme vous sûrement en ce moment. C'est des émissions de radio de style apocalyptique. Alors c'est l'anti-hebdo et alors on va, vous allez avoir un petit moment d'intimité avec le studio, puisqu'il va falloir que je dise à Nicolas d'aller appeler son invité par le couloir pour que je puisse finir l'anti-hebdo en direct ici et qu'on enchaînera avec lui après. Donc tu peux aller faire ça dans le couloir. Et donc demain, ce soir, mardi 7 décembre, c'est le lancement de Sex Inc. à l'occasion de la il y a d'autres téléphones dans la radio, les amis. Ils sont tous connectés. Alors voilà, vous vous êtes sentis dans le studio. lancement de Six Inc. à l'occasion de la parution de ce livre. Ça va être à la Casa Obscura au 4381 avenue Papineau. C'est un essai portant sur la question du travail du sexe. Marie-Pierre Boucher, sociologue, nous annonce: les recherches que j'ai menées pour l'écrire ont révélé qu'il s'agit en quelque sorte, pour vrai, du plus vieux métier du monde, à condition qu'on comprenne que gagner sa vie n'était pas spécialement valorisé, et encore moins en ce qui concerne la prostitution. Alors, une discussion aura lieu à 19h, une petite fête de lancement à 20h30, avec évidemment, à ne pas manquer, à 18h30, l'apéro et petite bouchée, organisée par les Femmes en Faim et les éditions Poètes de Brousse. Alors, Casa Obscura, 4381 avenue Papineau, www.poetedebrousse.org. Les aliments favorisant la chaleur pendant l'hiver, c'est une invitation ce soir également, de 4 à 7 au 111 Roi Est, au Centropole Roulant, vous invite à un événement culinaire. Mercredi 8 décembre, dénoncer la censure de Barry Gold. On va vous en parler dans un instant avec Alain Deneau, un des auteurs de Noir Canada. Soirée d'information, séjour d'observation des droits humains au Chiapas à 19h au Bar Populaire. C'est mercredi soir. Alors rendez-vous au 6584 Saint-Laurent pour rencontrer le comité pour les droits humains en Amérique latine. Vous avez à cœur les droits humains, vous désirez appuyer des communautés autochtones du Sud dans leur lutte pour le respect et leurs droits et leur quête d'autodétermination. Vous voulez connaître ce qu'implique le travail d'observatrice de droits humains? Alors, c'est un rendez-vous au CEDAL, www.cdhal.com. Jeudi 9 décembre, une pendaison de crémaillère, une autre occasion de vous rendre au Centropole Roulant à partir de 17h. Ça va être au 111 rue Roi Est. Boissons et hors d'œuvre seront servis de 17h à 19h. Vendredi soir, cabaret anarchiste à partir de 20h. Le bloc des écrivains anarchistes, Anarchist Writers Block, vous donne rendez-vous pour sa deuxième soirée. Ce soir-là, Oubou, sa vie, son œuvre. Musique, poésie, littérature, bouffe, bière et vin chaud. Micro ouvert. Apportez vos textes, vos chansons et instruments de musique. Une soirée qui met de bonne humeur. Alors au 2035 Saint-Laurent. Samedi 11 décembre, c'est la journée d'action en solidarité avec Abdelrazik et en opposition à la liste 1267 de l'ONU. Donc joignez-vous à nous dans une marche qui vous mènera à diverses institutions montréalaises complices du régime 1267, donc qui est la liste d'interdiction de vol à laquelle est ajouté Monsieur Abdelrazik. Le rendez-vous est à 13h au 999 rue Université, métro McGill. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le site de la Commission populaire, www.commissionpopulaire.org. S'il nous reste un peu de temps à la fin de l'émission, on vous en reparlera plus amplement. Un dernier rendez-vous dimanche soir, Milieu militant et anarchiste de Montréal, revue de la décennie. Une soirée de projection des films des Lucioles qui ont documenté la vie militante entre 2002 et 2007 à Montréal. Alors c'est également à la bibliothèque anarchiste d'IRA au 2035 Saint-Laurent, troisième étage. Plus d'informations, www.bibliodira.org. Et je pense que, Nicolas, tu es avec nous pour une chronique sur les enjeux immobilisation.
Oui, exactement. Alors, on va être en direct avec Alain Deneau, auteur du livre Noir Canada, livre qui faisait les liens entre les compagnies multinationales, le gouvernement du Canada et l'exploitation qui se fait de façon tout à fait éhontée en Afrique. Alors, Alain Deneau, bonjour.
Bonjour.
Alors, demain matin, vers 11h, il y a tout un événement qui se passe en face du palais de justice par rapport à la loi anti-slap, loi qui sert à bâillonner justement les gens qui dénoncent certaines choses injustes que font les compagnies. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu rapidement de ce qui s'est passé premièrement par rapport au slap, par rapport à vos accusations que vous avez eues qui ont été faites par la Barry Gold sur votre livre, puis ensuite nous parler de l'événement de demain?
Oui, en fait, on peut faire une histoire trop courte qui ne rendra pas justice à tous les acteurs, mais il reste que Éco-Société et les auteurs de Noir Canada, Delphine Abadie, William Sachaux, moi-même, avons reçu d'abord une mise en demeure assez intimidante et ensuite une poursuite en bonne et due forme pour 6 millions de dollars en 2008 pour avoir fait paraître Noir Canada, un livre qui fait état d'une documentation pléthorique sur le rôle controversé de multinationales canadiennes, notamment des minières en Afrique, mais ça aurait pu être en fond sur l'Amérique latine et sur bien des pays du Sud. et des juristes notamment et des acteurs de la société civile, à commencer par nous-mêmes, avons qualifié de poursuite Bayon ce type de méthode qui consiste à traîner devant les tribunaux des gens qui ont en quelque sorte simplement participé à la chose publique en débattant à partir de données qui existent et d'analyses de leur cru ainsi de suite. Quoi. Nous, ce qu'on a fait paraître, comme on le sait, ce sont des comptes rendus de dépositions faites au Congrès à Washington ou des rapports de l'ONU ainsi de suite, ainsi que des rapports d'organisations civiques tout à fait réputées d'africanisme. On connaît l'histoire. Et nous, on a bénéficié en fait du fait que des écologistes avant nous s'étaient mobilisés pour faire valoir cette notion de poursuite Bayon, parce que du moment qu'un acteur puissant veut faire taire des citoyens qui souhaitent se positionner sur un enjeu quelconque, environnemental, social, politique, ainsi de suite. Il a beau jeu de le faire parce que il sait qu'en entamant une poursuite judiciaire, il est à même de faire en sorte que la procédure soit un châtiment pour ceux qui y sont soumis. Pourquoi? Parce que dans notre juridiction, il est rare qu'on ait les moyens de se défendre en justice, et donc être poursuivi, c'est déjà un châtiment. C'était l'idée derrière cette critique, quoi, savoir qu'il fallait rendre public au moins cette notion et à partir de là amener le législateur à adopter une loi, ce qu'il a fait après notre cas, là, Noir Canada, après que nous ayons nous reçu nos visites de huissiers, quoi. Il y a eu cette mesure votée par le Parlement dans les mois qui ont suivi pour faire en sorte que les citoyens qui se jugent victimes de poursuites Bayon puissent s'adresser à un juge et faire état du problème. Quoi. Et demain, il y aura donc devant le palais de justice à 11h une annonce que je dois encore réserver, mais que nous ferons à 11h pour à la suite de tous ces événements.
Ça fait plusieurs personnes au Québec qui se font frapper en fait par cette loi Bayon-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différents groupes qui ont été touchés par cette stratégie-là?
Bien évidemment, la QLPA, à laquelle on pense, une association dédiée à la pollution atmosphérique, à cet enjeu, et qui s'est retrouvée poursuivie et rudement éprouvée par le fait d'avoir dû se défendre devant les tribunaux, d'avoir dû payer des avocats, d'avoir dû sursoir à son activité régulière pour produire des documents pour la Cour, se présenter dans des interrogatoires, ainsi de suite. Et on sait que, il y a énormément de leviers qui existent pour nuire au travail des gens qui ont l'odieux d'être poursuivis, tout simplement parce qu'ils ont fait leur travail de citoyens avisés. Et il y a également les citoyens de Cantley que l'on sait, que l'on connaît, qui sont mobilisés par rapport à un dépotoir à partir de documents du ministère de l'Environnement lui-même. Mais il suffisait qu'on écrive dans les journaux qu'on était contre la présence du dépotoir pour qu'on reçoive la visite d'un huissier. Donc il y a très clairement, comme l'a dit le professeur de droit public Pierre Noreau, des cas de détournement des fins de l'institution judiciaire. Et des auteurs d'un rapport présenté au ministre de la Justice il y a quelques années ont conclu, c'est que le juge dans notre constitution, notre juridiction, devait protéger sa propre institution contre les abus dont elle pouvait faire l'objet. Et donc la loi anti-SLAPP est une façon de doter les juges de dispositions pour qu'ils puissent agir en conséquence.
Maintenant, on est dans une société de démocratie représentative, supposément, et puis on voit de plus en plus le problème de la censure être vraiment présent par rapport aux différents groupes militants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sous quelle forme se manifeste cette censure?
La censure, par définition, elle se censure elle-même. C'est son propre, un des ratés des régimes totalitaires européens des années 30, c'est d'avoir créé comme tel un bureau de censure avec des censeurs officiels, ainsi de suite. À ce moment-là, c'est déjà perdu pour le censeur, puisqu'il crée un intérêt pour tout ce qui est censuré. Alors l'idée, ça a été longtemps important de censurer la censure, de faire en sorte qu'il y ait une censure sans qu'on puisse même le dire. Et la meilleure des autocensures, forcément, c'est l'autocensure. C'est parce que peu de gens vont se vanter de se censurer eux-mêmes, alors elle est très efficace et elle n'a pas à être nommée. Et la censure et l'autocensure, surtout, fonctionnent souvent sur la base de la peur. On craint pour sa carrière, on craint pour son salaire, on craint pour son emploi, on craint pour sa réputation. Donc, on fait craindre un certain nombre de conséquences là auprès de ceux qui seraient amenés à se mobiliser publiquement par rapport à un enjeu de société environnementale, politique, diplomatique, ainsi de suite. Donc, évidemment, les poursuites de Bayon ont été très efficaces longtemps. Elles continuent de l'être. Je pense qu'on n'a pas idée dans notre société à quel point des journalistes, des professeurs, des recteurs et tous ceux qui ont un lien plus ou moins direct avec les leviers de la parole publique. Donc, à quel point ces processus-là sont efficaces, quoi. À quel point ces acteurs-là reçoivent des mises en demeure, à quel point ces acteurs-là sont soumis à une pression des militants au demeurant. Et donc, on se rend compte qu'on est confronté à un problème qui est celui de la réputation que défendent des acteurs très puissants, dont on peut se demander finalement qu'est-ce qui fait qu'ils sont réputés, quoi, qu'ils sont si bien réputés. Est-ce que c'est parce qu'il devient presque impossible de les critiquer que ces acteurs sont si réputés? Est-ce que c'est parce qu'ils accèdent à cette formidable technique qui est celle du marketing? Comment est-ce que se construit une réputation et comment se construit en fait cette idée voulant qu'on lui nuise, quoi, indûment du moment qu'on revient sur un certain nombre de pratiques qui sont effectivement pas de l'ordre de ce dont se vantent les acteurs concernés.
Justement, par rapport à ça, il y a d'un côté la censure, puis de l'autre côté une information sélectionnée qu'on passe à travers des médias de masse. Puis justement, ces compagnies-là, souvent dans leur stratégie de marketing, vont avoir accès à une source de diffusion d'informations assez large. Puis ça, comment ça va influencer justement les gens, les auteurs, les militants qui luttent pour dénoncer quelque chose qui va à l'encontre des intérêts de ces puissances-là?
Ah, la question est excellente, hein, d'autant plus que les médias aujourd'hui, bon, les médias qui sont depuis longtemps des entités privées, doivent quand même séduire des annonceurs. Et si on séduit des annonceurs, c'est qu'on offre un produit. Un produit, c'est une sorte d'univers hein, dans le domaine des médias. On vend aux annonceurs un univers qui va convenir non pas seulement à leur propre discours pour qu'ils s'agencent bien, mais à l'attitude qu'on souhaite avoir le lecteur quand il fréquente cet univers-là. Si on lit la presse, le journal de Montréal, si on regarde TVA, ainsi de suite, il convient qu'on soit dans un certain état d'esprit pour qu'on soit à même de recevoir les propositions des annonceurs. Alors forcément, on ne sera pas nécessairement tenté de faire des annonces, des lecteurs, des gens critiques de l'ensemble du système. On va bien sûr permettre une certaine critique relative, mais ce sera toujours une critique qui sera homéopathique et qui ne permettra pas des remises en cause de l'ordre établi. Au contraire, on va avoir tendance à reconduire au jour le jour les logiques permettant à l'ordre établi de perdurer. Et c'est à l'intérieur de ces univers médiatiques-là qui se passe de journalistes, comme on le voit avec le Journal de Montréal, et qui aujourd'hui est une plus l'affaire de maquettistes et d'agents de marketing, là, d'arriver à leur fin. Quoi. Donc on en est à ces logiques-là. Et cela contraint ceux qui ont un discours critique le plus souvent d'agir dans des marges. Mais ce sont des marges qui s'élargissent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point aujourd'hui entre, disons, le discours des médias de masse qui est assez navrant, d'une part, et d'autre part, un discours scientifique subventionné, contrôlé par des pairs qui sont pris dans des logiques sociologiques de conformisme bien évidentes, là, entre les deux, tente à se développer, à s'élargir un créneau de pensée qui est justement le créneau des gens qui pensent, quoi, le créneau de ceux qui souhaitent avoir un discours qui n'est pas nécessairement sophistiqué, là, comme peut l'être parfois même jusqu'à l'obsession certaines pratiques scientifiques, et qui n'est pas pour autant abject, comme trop souvent la proposition de ce dont tout le monde parle dans les médias, pour reprendre le titre d'une émission bien connue. Donc, en fait, c'est dans cet entre-deux, je veux dire, votre émission aujourd'hui à bâbord, bon, on peut peut-être jusqu'à inclure à certains égards Le Devoir dans ce créneau-là, là, on assiste à une volonté là d'entendre autre chose que ce que j'ai évoqué, et c'est en inscrivant des données, puis en s'inscrivant soi-même, puis en participant de cette activité médiatique-là, qu'on peut faire bouger certains paramètres. Tout ça s'inscrit dans le temps long de l'histoire. Il faut être patient, mais en même temps être très intense.
Les médias utilisent une manière de justifier, utilisent un mot pour justifier en fait la sélection qu'ils font par rapport au thème qu'ils utilisent, puis c'est celui de l'objectivité puis de la neutralité. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment ils utilisent ce terme-là pour justement écarter toute une partie de la critique qui est présente?
Je trouve que la remarque était juste il y a encore quelques années, mais je m'étonne aujourd'hui, à part peut-être pour Radio-Canada, je m'étonne de voir aujourd'hui à quel point les médias se polarisent. Vous prenez le Journal de Montréal, par exemple, au Québec, c'est très clairement devenu une feuille idéologique. Une feuille idéologique qui pourfend l'État, qui présente l'État comme dépensant trop, qui vante l'industrie privée, qui milite pour la privatisation, et qui en même temps a une sorte de lecture du monde qui est moins objectivante que paranoïaque, d'une certaine façon, où on va nous montrer des malheurs s'accumuler sans qu'on puisse jamais comprendre ni la cause, ni l'organisation, ni la grammaire. Au fond, il n'y a pas ce qu'on appelle en philo une axiologie. Il n'y a rien qui organise la pensée de tout ça. C'est qu'on présente le monde comme étant un vaste désordre qui risque de nous emporter tout le temps, et ça crée de l'excitation à peu de frais, bien sûr, mais sans plus de conséquences pertinente pour le lecteur. Vous prenez la presse c'est un journal qui a pas une lecture tellement différente, mais il reste que sur le ton, on va beaucoup défendre l'expertise, on va défendre l'expert comme étant celui capable de ramener les brebis égarées dans le droit chemin d'un libéralisme même plus éclairé, mais au fond décomplexé, quoi, le libéralisme de ceux qui au fond auront toujours le dernier mot et le fin mot de l'histoire pour justifier que le monde aille à peu près là où il doit aller, avec parfois quelques bémols, parce qu'il faut quand même bien avoir l'air critique. Mais il y a de plus en plus une affirmation, je trouve, des discours idéologiques propres aux médias. Le Devoir finit par se positionner, lui, contre Harper, c'est assez clair, une ligne à la fois nationaleuse québécoise et anti-Harper. De ce dernier aspect étant le plus intéressant, là. Donc, il y a quelque chose de clair aussi. Ce qui m'étonne un peu plus, c'est le temps que prend le lectorat pour s'en rendre compte, quoi. C'est comme si le lectorat en était encore à se dire qu'on lui servait en toute objectivité de l'information, alors que les journaux se polarisent. Dans d'autres cultures, on voit les journaux comme des étendards. En France, quelqu'un qui va lire le Figaro, en Allemagne, un lecteur de la Frankfurter Allgemeine saura en fait qu'il lit un journal de droite et le revendiquera, alors qu'ici, j'ai rarement vu des gens dire je suis de droite et je lis la presse, alors que ce serait tout à fait dans l'ordre des choses que de le dire, et éventuellement d'en être fier, là, pour les intéresser.
Justement, par rapport à la couverture médiatique qu'il y a eu, par rapport à plus précisément au baïonnage auquel vous avez face, est-ce que ça a été fort ou ça a été plutôt marginalisé?
Je dirais que le débat a évolué d'une manière générale, pas seulement dans les médias, mais on sent qu'il y a que ce qui était au départ de la perplexité se transforme depuis plusieurs mois en un soutien de plus en plus clair de la part de ceux qui nous suivent. Il y a comme une conviction qu'il y a quelque chose de légitime à faire paraître un livre tel que le nôtre, d'une part. Et d'autre part, les médias ont fini par reconnaître la pertinence du débat, je dirais, notamment en ce qui concerne Radio-Canada et Le Devoir, là, Le Devoir ayant été le journal le plus à l'affût de notre affaire. Timidement, par des voies indirectes, parfois on a eu des mentions dans les autres médias, mais ça a été assez timide. Il reste que c'est une histoire, celle du rôle du Canada en Afrique et de la liberté d'expression via les livres, qui pourra dans notre société être présentée comme marginale. Là où il y a beaucoup d'espoir en ce qui concerne notre affaire, c'est qu'elle est emblématique d'une situation générale qui est celle des acteurs engagés dans notre vie publique. Puis il suffit d'une minorité dans une civilisation qui s'engage pour que déjà les choses avancent, quoi. C'est jamais les majorités qui subitement, spontanément se lèvent et tendent à arriver après coup, quoi, dans l'histoire.
Alors, en terminant, est-ce que vous pouvez nous rappeler où et quand va se passer l'événement de demain matin?
Oui, mais en fait, l'éco-société, les auteurs de Noir Canada invitent ceux qui s'intéressent à la cause qui est devenue la nôtre depuis 2008 à nous rejoindre devant le palais de justice de Montréal à 11h demain. C'est à l'angle des rues c'est à Saint-Antoine et Saint-Laurent, si je ne m'abuse, devant le palais de justice.
Donc, à 11h, à l'angle Saint-Antoine-Saint-Laurent, rendez-vous pour soutenir, en fait, le projet de loi anti-braillon qui se passe en ce moment. Alors, on est avec Alain Deneau, auteur de Noir Canada, et vous êtes à Radio Centreville 102.3 FM. Bonne journée.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup.
C'est donc ce qui va conclure cette édition de En bas à gauche. On vous rappelle quelques événements à ne pas manquer. Vous pouvez retrouver le contenu de l'anti-hebdo sur le site du Centre des médias alternatifs du Québec, cmac.net, mais également sur l'agenda militant, agendamilitant.info. Et donc, une mobilisation demain, mercredi, devant le palais de justice, comme on vient de vous le dire. Et je vous rappelle une autre mobilisation samedi contre les délires et les mesures de sécurité en immigration, donc qui consiste à faire passer absolument tout le monde pour des terroristes dans le but de nous protéger. C'est donc une invitation du projet Retour au Bercail qui se mobilise depuis plusieurs années pour faire, qui a réussi à faire revenir Monsieur Abdel Razik du Soudan, où est-ce qu'il était enfermé dans l'ambassade canadienne. Une histoire rocambolesque que je vous invite à aller découvrir sur leur site commissionpopulaire.org. Vous pouvez cliquer sur l'histoire de M. Abdel Razik et surtout venir vous mobiliser et être présent avec lui devant le bureau de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, qui donc a un rôle dans cette liste des interdictions de vol. Et quand une personne n'a pas le droit sur une liste d'interdiction de vol, elle se trouve aussi à avoir une interdiction de voyager, mais aussi un gel de ses actifs financiers, ce qui est quand même un problème un petit peu plus compliqué à gérer. Alors, c'est une invitation au 999 rue Université, métro McGill à 13h samedi prochain. Toute l'équipe d'En bas à gauche vous souhaite une belle semaine et vous retrouve la semaine prochaine ou vous croise dans les rues. N'oubliez pas d'aller voir notre blog enbasagauche.wordpress.com et surtout d'y faire des commentaires. Vous pouvez également réécouter le contenu de l'émission. Et réutiliser, si vous avez vous-même une émission, vous pouvez réutiliser nos entrevues ou d'autres matériels. Si vous avez des commentaires que vous ne voulez pas écrire sur le blog, vous pouvez également nous écrire à en bas à gauche à riseup.net. On vous laisse avec Le Bel Âge et avec la suite de la programmation de Radio Centreville.
Avec la prudence, pas d'accident. Organisez une marche dans votre voisinage et apprenez aux enfants à repérer les dangers. Commandez sans frais votre pochette La Marche axée sur la prudence au 1-800-250-3030 ou visitez le site amputedeguerre.ca.
Ne manquez pas Voyage Musical. Une émission de découverte musicale de Montréal
à Hong Kong,
à Shanghai, en passant par le monde entier.
Avec Simon Onkantner
et Sabina Amandara, tous les mardis soirs de 22h30 à 23h30 sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM.
L'équipe haïtienne de Radio Centre-Ville présente Tant longtemps.
Tant longtemps,
Une émission de musique rétro, agrémentée d'histoires passionnantes sur la musique haïtienne. Des anecdotes intéressantes sur la vie des compositeurs, des musiciens qui ont marqué le temps.
Temps longtemps, animé par Brady Donissin et son équipe, chaque dimanche soir de 9h à 10h sur les ondes de Radio Centre-Ville.
Temps longtemps, un rendez-vous à ne pas manquer.
Pour les fêtes, je vous suggère un cadeau plus facile à trouver que le bon sac à main qui va avec les bons souliers, plus gratifiant à donner qu'une carte cadeau et définitivement plus utile qu'une cravate. Donner du sang, c'est toujours un cadeau parfait. Après avoir reçu plus de 20 transfusions sanguines à cause de ma leucémie, je peux vous confirmer que c'est un cadeau qu'on apprécie pour la vie.
Partagez un cadeau unique à la collecte de sang du Centre islamique libanais à Montréal le 11 décembre de 10h à 16h30. Donnez du sang, donnez la vie. Un message d'Emma Québec.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Depuis 35 ans, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.